Émile Gaboriau, Les comédiennes adorées. Mademoiselle de Camargo, 1710-1770. Au commencement du XVIIIe siècle, le ballet était encore un divertissement solennel. On était si voisin de ce temps glorieux où Louis XIV, le roi soleil, daignait descendre de son Olympe pour étaler ses grâces et danser, lui-même, devant ses courtisans éblouis. En 1725, les trois genres de ballet, le noble, le comique et le pastoral, étaient aussi ennuyeux l'un que l'autre. Les spectateurs s'endormaient à entendre la plus assoupissante des musiques. Ils bâillaient à voir ses longueurs et ses fadeurs, ses poses, ses attitudes, ses tours de tête, ses airs penchés. Alors, on dansait surtout avec les bras. Tout à coup, une danseuse apparut qui dansait avec les jambes. Ce fut une révélation et une révolution. Marianne de Cupide Camargo, la nouvelle venue, était née à Bruxelles le 15 avril 1710. Elle avait 16 ans et était noble comme une chanoinesse d'un chapitre d'Allemagne. Par son père, elle descendait de l'illustre famille des Coupis qui a donné à l'église romaine un évêque d'Ostie, un archevêque de Trani, un cardinal en titre de Saint-Jean, Ante Portam Latinam, doyen du Sacré Collège, en l'an 1577, sous le pontificat de Léon X, et encore, un abbé de la célèbre abbaye de Villers, en Belgique. Par sa grand-mère, elle tenait à la noble maison des Camargo d'Espagne. Elle n'était pas médiocrement fière de ses 32 quartiers, et chez elle, on pouvait admirer un arbre généalogique parfaitement en règle. Il est vrai que ses parchemins ne lui servirent pas de grand-chose, mais ses pirouettes la menèrent à la fortune et lui donnèrent bien vite de quoi redorer son blason. Le père de cette noble danseuse, Ferdinand Joseph de Coupy, alias Camargo, écuyer, seigneur de Renoussart, ainsi il se qualifie, naquit à Bruxelles. Orphelin de bonheur et privé des biens immenses de sa famille par l'incurie de sa mère, par les procès, les malheurs et les ravages des guerres. Pauvre comme Job, fier comme un gueux espagnol, il vécut un peu comme ces aventuriers de belle manière qui taillent le pharaon aux banques de Casanova. Un pied dans la noble compagnie, le pied gauche, l'autre au cabaret ou au tripot. Comme il aurait mieux aimé mourir que de déroger, il songea, pour se procurer quelque argent, aux arts libres. Il utilisa un assez agréable talent sur le violon et se fit mettre à danser. Il avait bonne mine, les élèves ne lui manquèrent pas. Un jour, cependant, il s'éprit d'une belle fille, noble comme lui, pauvre plus que lui. N'ayant rien à lui offrir que son nom, il épousa. Sa femme ne lui avait pas apporté de dot, mais, en manière de compensation, elle lui fit, en peu d'années, présent de 7 enfants. L'avant-dernier fut Marianne. À peine née, la petite fille donna les plus magnifiques espérances. Elle n'avait pas un an que, déjà, elle sautait en cadence dans les bras de sa nourrice, au son du violon paternel. De ce moment, Ferdinand Joseph de Coupy vit bien que sa fille serait une illustre ballerine et il mit tous ses soins à cultiver et à développer ses merveilleuses dispositions. Il ne perdit pas ses peines. À 11 ans, Marianne dansait si joliment dans les salons que la princesse de Ligne et quelques femmes de la cour, protectrices et clairées des arts, jugèrent que ce serait péché de la ravir aux applaudissements du public. Il fut donc décidé qu'elle irait à Paris prendre des leçons de Mademoiselle Prévost, alors la reine de l'opéra. Les grandes dames se cotisèrent et, à peu de jours de là, le sieur de Coupy, la bourse bien garnie, s'installait dans un confortable carrosse et partait avec sa fille pour Paris. À Paris, sur la recommandation de Madame la princesse de Ligne, le prince d'Issingen et le comte de Middelbourg voulurent bien s'occuper de la petite danseuse. Ils la présentèrent, ainsi que son père, à Mademoiselle Prévost, qui consentit à la perfectionner et à lui enseigner les dernières difficultés et le fin de son art. Après 3 mois d'exercice, Marianne revenait à Bruxelles, débutait au théâtre et obtenait un très grand succès. Bientôt, elle trouva l'emploi de son précoce talent. Pélissier, directeur du théâtre de Rouen, ayant entendu parler de la jeune prodige, vint lui offrir un engagement. Il y eut des pourparlers assez longs. Le noble maître à danser ne voulait pas, absolument, laisser partir sa fille seule. De notre côté, la suivre, entreprendre un long voyage avec une femme et plusieurs enfants, était trop coûteux pour être possible. Ensuite, comment vivre là-bas? Tout s'arrangea pourtant. Il fut convenu qu'un des frères de la danseuse jouerait du violon à l'orchestre et que le père ferait aussi sa partie et, de plus, donnerait des leçons aux élèves du ballet. Et la colonie des coupes y se mit en chemin. À Rouen, la jeune ballerine réussit. Mais hélas, Pélissier, homme de plaisir, était trop généreux pour faire de bonnes affaires. Un jour vint où la caisse de la direction se trouva vide. Cela arrive encore de nos jours. Le directeur aux abois ne pouvait plus soutenir son théâtre. Qu'allaient devenir les coupies? C'est ce moment que la fortune choisit pour frapper à leur porte, sous l'apparence de Francine, violon à l'opéra, dont il allait être directeur. Il venait chercher Mademoiselle de Cupy, dont on avait entendu dire le plus grand bien à Paris. Il venait lui offrir de débuter à l'Académie royale de musique. Il en a toujours été ainsi depuis les commencements du théâtre. Rouen, de tout temps, a été comme le conservatoire du chant, de la danse et de la déclamation des théâtres de Paris. Le public rouennais, qui n'est pas le plus endurant des publics, s'entend merveilleusement à former les comédiens. C'est sa spécialité. Un sujet lui arrive-t-il montrant quelques dispositions, aussitôt il l'adopte et le suit pas à pas. Il applaudit à ses progrès, siffle à ses défaillances, enfin parvient à faire un grand artiste. Ce jour-là, Paris arrive et s'en empare. Francine amena donc Mademoiselle de Cupy, et comme la direction de Pélissier sombrait définitivement, il en recueillit les épaves et, du même coup, engagea Mesdemoiselles Pélissier et Petitpas, deux chanteuses qui ne devaient pas tarder à faire parler d'elles. Arrivée à Paris, Marie-Anne quitta définitivement le nom de son père pour celui de sa grand-mère. C'est donc sous le nom de Camargo qu'elle débuta à l'opéra le 5 mai 1726 dans un pas très difficile des caractères de la danse. Le succès fut foudroyant. Sa jeunesse, ses yeux noirs, sa vivacité, ses pieds d'enfant, ses jupes très courtes firent fureur. Dès le lendemain, on ne conquérait des places qu'à la pointe de l'épée. Mode, coiffure, toilette, tout fut à la Camargo. Elle n'était pas jolie, cependant, ou plutôt, elle était laide. Un vrai monstre, comme sa devancière, Mademoiselle Prévost, dit un contemporain. Nauvert est un peu de cet avis. « J'ai vu, dit-il, danser Mademoiselle de Camargo. C'est à tort que quelques auteurs lui ont prêté des grâces, la nature lui avait refusé tout ce qu'il faut pour en avoir. Elle n'était ni grande, ni jolie, ni bien faite. Mais dansait-elle, aussitôt on oubliait sa figure. » On n'avait d'ailleurs pas le temps de voir si elle était laide ou belle, tant elle était vive et légère. Elle bondissait, elle tourbillonnait, elle éblouissait. Puis sa physionomie s'illuminait et changeait. Ses yeux noirs étaient alors pleins de sourires et de provocations. Sa bouche, aux lèvres minces, souriait et laissait voir ses dents blanches. Elle ne dansait pas pour le public, mais pour elle-même, pour son plaisir. Jamais on n'avait eu l'idée de tant de séduction, de caprice, de gaieté surtout. C'est en vain, dit Cahusac, qu'on chercherait un enjouement plus franc, une vivacité plus naturelle. Et le pied de la Camargo, une miniature, ce pied de Cendrillon des contes de Perrault, ne fut-il pas une des merveilles du XVIIIe siècle? Elle fit le renom et la fortune de son cordonnier choisi. Toutes les femmes de la cour et de la ville voulurent être chaussées par cet homme qui faisait de si petits souliers. Et encore, autre élément de succès, non le moindre, la première, elle osa se montrer avec des jupes courtes. Ces jupes courtes, qui découvraient une jambe divine, un éclair, mirent le feu à toutes les cervelles. Il y eut émeute. Camargo, la première, dit Grimm, osa faire raccourcir les jupons. Cette invention utile, qui met les amateurs en état de juger avec connaissance de cause les jambes des danseuses, pensa alors occasionner un schisme très dangereux. Les jansénistes du parterre criaient à l'hérésie et au scandale et ne voulaient pas souffrir les jupes raccourcies. Les molinistes, au contraire, soutenaient que cette innovation nous rapprochait de l'esprit de la primitive Église qui répugnait à voir des pirouettes et des gargouillades embarrassées par la longueur des cotillons. La Sorbonne de l'Opéra fut longtemps en peine d'établir la saine doctrine sur ce point de discipline qui divisait les fidèles. La Camargo et les jupes courtes l'emportèrent. L'année suivante seulement, 1727, on reconnut les inconvénients de cette innovation. Une jeune et gentille ballerine, Mariette, ayant eu ses vêtements accrochés par un châssis, posa pour l'ensemble devant toute la salle pendant une bonne minute au moins. Le modèle eut un grand succès, mais la pudeur de la police fut singulièrement alarmée. Il parut une ordonnance qui défendait à toute actrice ou danseuse de paraître sur le théâtre sans caleçon. Ou danseuse et jolie. Le caleçon mit tout le monde d'accord. Cette transaction était fort disgracieuse, mais on allait bientôt la remplacer par le maillot. Souple, léger, soyeux, transparent comme une toile d'araignée, le maillot devait enrichir les marchands de formes factices et faire les délices de l'habitué de l'orchestre. Cependant, le succès incroyable de Mademoiselle de Camargo n'avait pas tardé à alarmer son ancienne maîtresse. Mademoiselle Prévost se sentit dépassée par cette élève devenue une dangereuse rivale. Ne pouvant la vaincre, elle essaya de la condamner à l'oubli. Pour commencer, elle refusa de lui continuer ses leçons dont elle avait trop bien profité. Puis, à force d'intrigue, elle réussit à la faire reléguer parmi les plus infimes figurantes. Le plus qu'elle put, elle l'empêcha de se montrer et refusa même de lui faire danser un pas que demandait Madame de Berry. C'en était fait de la Camargo, toute sa vie, peut-être, elle serait restée perdue dans la foule vulgaire des filles d'opéra, sans un coup de tête, véritable coup de maître, qui la porta au premier rang et assura sa fortune. Un soir, elle figurait dans une entrée de démons. Dumoulin, qui devait y danser un solo, n'était pas en scène quand les symphonistes attaquèrent sonnèrent. Une inspiration soudaine la saisit. Elle quitte son rang, s'élance au milieu du théâtre, improvise le pas de Dumoulin et danse de verve, de caprice. Elle bondit, elle pirouette, elle tourbillonne, enfin, elle transporte d'enthousiasme tous les spectateurs. Cette victoire acheva de la brouiller avec Mademoiselle Prévost, mais elle lui valut les conseils de Blondie. Sous la direction de ce professeur habile, elle gagna rapidement, surtout en correction. Même, elle l'aima un peu, dit-on, au grand désespoir de Mademoiselle Prévost, qui était encore sa rivale sur ce terrain. Alors elle était l'étoile de l'Académie royale de musique, et c'est à cette date, 1728, que Mademoiselle Lecouvreur écrit « On jouait hier Roland de Quinault et Lully ». Mademoiselle Prévost, bien qu'elle se surpassât, eut des applaudissements bien médiocres en comparaison d'une nouvelle danseuse nommée Camargo, dont le public est idolâtre et dont le grand mérite est la jeunesse et la vigueur. Je doute que vous l'ayez vue. Mademoiselle Prévost l'a protégée d'abord, mais Blondie en est devenue amoureux et il y a eu de la pique. Elle apparut jalouse ou mécontente des applaudissements du public et, depuis ce temps, ils sont augmentés au point que cela paraît une fureur et que la Prévost sera folle si elle ne prend le parti de se retirer. Il y avait de quoi devenir folle en effet. En 2 ans, la Camargo avait fait de si surprenants progrès qu'à peine elle était reconnaissable. Sûre de son public, cette petite sauteuse venait de créer un genre. D'un pied dédaigneux, elle venait de pousser dans l'abîme de l'oubli les menuets, les sarabandes et les courantes. Elle remplaçait par la rapidité, l'agilité, la prestesse, toutes les grimaces qu'on admirait avant elle et qui ne parurent plus supportables dès qu'on l'eut vue. Bon gré, mal gré, les derniers partisans du genre noble, si chers au feu roi, durent en prendre leur parti. On l'accusa d'avoir inauguré le règne des cabrioles, elle venait simplement de créer la danse de parcours et d'élévation. Les jetés battus, la royale, l'entrechat coupé sans frottement, Tous étant difficiles, lit-on dans les lettres sur les lards imitateurs, elle les enlevait avec une merveilleuse aisance. Elle excellait dans les gavottes, les rigodons, les lourds, les marches et les tambourins. Les gargouillades lui semblant peu décentes, elle les remplaçait par des sauts basques, d'avant en arrière, extrêmement gracieux. C'est elle qui, la première, en 1730, bâtit des entrechats à quatre. Mais son triomphe était un certain pas de menuet qu'elle exécutait sur le bord des lampes, d'un côté à l'autre du théâtre. Chaque soir, le public attendait ce passage avec la plus vive impatience. Beaucoup de gens venaient à l'opéra uniquement pour ce tour de force. Ils applaudissaient à tout rompre et se retiraient dès que la danseuse avait fini. Le prestige de Mademoiselle de Camargo était alors tel que les ovations la suivaient hors du théâtre. Ainsi, un soir qu'elle se retirait après l'opéra et traversait le jardin des Tuileries, Madame la maréchale de Villa l'aborda près du bassin et lui parla pendant un bon quart d'heure. Tous les promeneurs aussitôt s'assemblèrent en foule, firent cercle et battirent des mains, autant pour témoigner leur admiration à la danseuse que pour marquer à Madame de Villa combien ils approuvaient sa bienveillance. Il faut dire qu'elle ne fut pas toujours aussi heureuse avec les femmes du monde, même d'une bien moindre condition que la maréchale. Un jour de Saint-Louis, entre autres, à l'Académie française, elle eut la fâcheuse idée d'aller s'asseoir près de Madame du Bocage. Tous les yeux aussitôt se fixèrent sur cette dame qui, blessée d'un tel voisinage, ne savait plus quelle contenance garder. Enfin, le maréchal de Belle-Île eut pitié de son embarras. Il alla lui offrir la main et, comme il n'y avait plus de place, il la conduisit au fauteuil d'un académicien absent. Pour Mademoiselle Camargo, ajoute la chronique, elle ne sembla pas s'apercevoir du scandale qu'elle causait. Elle promena un regard insolent sur toute l'assemblée. Le public indigné l'aurait hué sans la majesté du lieu. Pour en finir avec le talent de la danseuse, on doit avouer qu'en dépit de sa verve capriolante, de ses jetés, de ses flic-flacs et de sa grande élévation, elle dansait avec une décence extrême. Elle avait une manière si adroite de prendre ses pas sous elle que jamais on ne put apercevoir sa jambe au-dessus du genou. De là, grande préoccupation de tous les habitués. Se conformait-elle à l'ordonnance? Portait-elle oui ou non un caleçon? La question était aussi grave que délicate. Les uns étaient pour, les autres contre. Des paris considérables s'établirent. Durant des mois entiers, des centaines d'yeux guettèrent un faux mouvement révélateur. Ce faux mouvement ne vint pas. C'est alors que, ne pouvant plus contenir leur impatience, les parieurs envoyèrent une députation à Mademoiselle de Camargo afin de savoir au juste à quoi s'en tenir. Elle répondit avec une belle rougeur et les yeux modestement baissés que jamais sans cette précaution, elle n'aurait osé se montrer en public. Le débat fut vidé et, sans aucun doute, c'est en souvenir de cette réponse que, longtemps, à l'Académie royale de musique, on donna au caleçon le nom bien autrement aimable de « précaution ». Gaie, folâtre, rieuse, la Camargo semble en scène la prêtresse du plaisir et de l'amour. Ainsi s'exprime un de ses admirateurs. Rentrée dans la coulisse, toute cette exaltation factice tombait. Elle était mélancolique, à l'ordinaire, et même triste. Son visage exprimait habituellement l'ennui le plus profond. On citait son esprit, le fait est qu'elle ne parlait guère. Au théâtre, est-ce par fierté, elle n'adressait presque jamais la parole à ses camarades. Elle était d'une dignité froide, comme il convient à la nièce d'un cardinal égaré à l'opéra, et se retranchait derrière ses 32 quartiers, comme en une citadelle. Cependant, elle n'avait guère d'autre ennemi que Mademoiselle Prévost. Comme elle était obligeante et bonne, on la supportait et on ne se moquait pas trop de ses grands airs de princesse. 2 ans après son début à l'opéra, on la disait sage. Si Blondie l'avait aimée, il avait été discret. Au moins, n'avait-elle eu aucune aventure. Elle n'allait pas tarder à débuter de ce côté aussi et avec un certain éclat. Entre tous ses adorateurs, et ils étaient nombreux, Mademoiselle Camargo avait remarqué le comte de Melun. Quand tous les galants, voyant l'inutilité de leurs efforts, se retiraient, seul il avait persisté. Il en fut récompensé. Bientôt, la Camargo consentit à le recevoir, une fois, puis deux, puis trois. Mais il fallait beaucoup de discrétion et de prudence. Le sieur Cupy surveillait fort scrupuleusement sa fille. Cette contrainte pesait fort au noble comte de Melun, aussi proposa-t-il à la belle de l'enlever. Ainsi, il serait libre. Elle accepta. Par une belle nuit du mois de mai, tout était disposé pour l'enlèvement, lorsqu'au dernier moment, un obstacle imprévu se présenta. Mademoiselle de Camargo avait une jeune sœur nommée Sophie, âgée de 13 ans, qui dansait à l'opéra. Sophie, voyant qu'on enlevait son aînée, voulut être enlevée elle aussi. Tout d'abord, M. de Melun refusa net, mais la fillette jurant qu'elle allait crier à l'aide si on ne l'emmenait, force fut au comte de se rendre à ses désirs. Il enleva les deux sœurs et les conduisit à son hôtel de la rue des Cultures Saint-Gervais. Terrible fut le lendemain la colère de Joseph de Cupy, à qui demander justice d'une si odieuse violence. Le noble maître à danser pensa que c'était précisément le fait d'un premier ministre. En conséquence, il adressa à son Excellence le cardinal Fleury la belle supplique que voici. Ferdinand Joseph de Cupy, alias Camargo, écuyer, seigneur de Renoussart, représente très respectueusement à votre éminence que, hors d'état de pouvoir soutenir son rang et chargé de 7 enfants, il a gémi sans murmurer. Il a cherché à procurer à ses enfants des talents particuliers et des arts libres qui puissent, sans qu'ils dérogeassent, subvenir aux besoins de la vie et les faire sortir de la misère en attendant des jours plus heureux. Il a fait donner à l'un des instructions pour la musique, à d'autres pour la peinture, à d'autres pour la danse. Dans ce nombre sont 2 filles, actuellement âgées, l'une de 18 ans, l'autre de 13. Comme le feu roi, de glorieuse mémoire, a voulu qu'on pût être à l'opéra sans déroger, le suppliant, ayant été sollicité et même forcé par des personnes qui savaient les grandes dispositions de l'aîné, n'a pu s'empêcher de consentir à ce qu'elles entrassent à l'opéra, mais sous la condition que lui ou son épouse les conduirait et les reprendrait en sortant. En effet, l'aîné, qui y est depuis 3 ans, s'est toujours bien comporté et cette conduite a été universellement admirée, aussi bien que sa danse. Mais depuis 3 ans, M. le comte de Melun a usé de séduction et de voix également indignes de lui et du suppliant. Il a osé proposer au suppliant de consentir à la débauche de sa fille et lui a offert pour cela de lui abandonner les appointements qu'elle a à l'opéra. Le suppliant ayant traité comme il le devait cette proposition, le comte a trouvé le moyen de s'introduire pendant plusieurs nuits dans la chambre de ses filles et enfin, du 10 au 11 du mois de mai, il les a enlevées toutes les deux et les tient actuellement en son hôtel à Paris, rue de la Couture Saint-Gervais. Le suppliant, ainsi déshonoré, ainsi que ses filles, poursuivrait à l'ordinaire si le ravisseur était un simple particulier et les lois établies par Sa Majesté et ses augustes prédécesseurs veulent que le rapt soit puni de mort. Il y a 2 crimes, 2 sœurs enlevées, dont l'une âgée de 18 ans, l'autre de 13. Mais le suppliant, ayant pour partie une personne du rang du comte de Melun, est obligé de recourir au législateur et espère de la bonté du roi qui lui fera rendre justice et qui l'ordonnera au comte de Melun d'épouser la fille aînée du suppliant et de doter la cadette. Il ne peut que par là réparer une injure si sanglante. Monsieur de Cupy n'était pas dégoûté, un bon mariage lui suffisait. La requête réjouit fort le cardinal. Enlever des fillettes de 13 ans, c'était alors un jeu de prince. Moins de 8 jours après cette équipée, la petite Sophie retournait chez son père. Elle n'y resta pas longtemps. Être enlevée était chez elle une vocation. Libre de par la loi de l'opéra, Marianne resta à l'hôtel de la rue des Coutures Saint-Gervais. Quant au noble maître à danser, voyant bien que toutes ses démarches étaient inutiles et qu'il ne pouvait sauver sa fille, il ne songea plus qu'à sauver les appointements. Le comte de Melun avait su vaincre, il ne sut pas garder sa conquête. L'imprudent, il commit la faute d'introduire dans le sanctuaire de ses amours un de ses cousins, M. de Marteil, lieutenant aux armées du roi. Mademoiselle de Camargo partit au bras de ce cousin. Ce fut, dit-on, l'amour le plus sérieux de sa vie. Il aurait pu être éternel si M. de Marteil n'avait reçu l'ordre de rejoindre son régiment qui se battait en Flandre. Il partit et fut tué à la première affaire. Mademoiselle de Camargo fut frappée au cœur, mais elle eut la force de cacher sa douleur et n'en dansa que de plus belle. Puis, pour s'étourdir sans doute, elle s'empressa de donner à feu M. de Marteil de nombreux successeurs. Déjà, ce n'était plus la nymphe timide et rougissante des premiers jours. Le magasin de l'opéra de la rue Saint-Nicaise en savait long sur son compte. En 1731, elle avait eu le temps de s'aguerrir assez pour n'être point déplacée aux fêtes de Gruère. Riche et généreux, Gruère avait la réputation d'un amphitryon magnifique lorsqu'il obtint pour 30 années le privilège de l'Académie royale de musique. Chez lui, la chair était exquise et délicate. Son cuisinier était un des premiers de Paris. Nommé directeur, il ne songea qu'à donner à ses fêtes un irrésistible attrait. Il mit à contribution tout l'opéra. L'orchestre s'établissait dans une salle voisine de celle du festin et les beautés les plus célèbres de la danse et du chant se mêlaient aux invités. Souper ou dîner chez Gruère était une faveur pour les plus huppés de la cour. Si, au dessert, le propos devenait libre et le geste hardi, personne ne songeait à s'en plaindre. On allait cependant un peu loin quelquefois. Un certain 15 juin 1731, par exemple, après un festin inondé de champagne où assistaient Mesdemoiselles Pélissier et Petitpas, Mademoiselle du Tillet, l'aînée, dite la Constitution, la fille d'un nonce du pape, s'il vous plaît, et Mademoiselle de Camargo, fantaisie prit aux convives d'organiser un bal primitif et dépouillé de 20 ornements. Il était 2 heures de l'après-midi, il faisait chaud, les fenêtres étaient ouvertes, si bien que les voisins, les passants, plus de 1000 personnes, purent assister à cette petite fête de famille. Le bon roi Louis XV s'amusa beaucoup de cette espièglerie, dont on le régala à son petit lever, mais on ôta à Gruère son privilège. Il dut sa destitution bien moins au scandale causé qu'aux intrigues de ses 2 associés, le comte de Saint-Gilles et le président Leboeuf. Ce fut du reste un bonheur, on le sauva ainsi d'une ruine certaine. Le comte, qui recueillit l'héritage, était sans ressources au bout de 10 mois. Mademoiselle de Camargo avait, à ce moment, 2 400 livres d'appointements que son père, le susceptible Hidalgo, touchait religieusement. Mais elle pouvait facilement se passer de cette chétive somme. La fortune lui venait par la même porte que les amants. Outre l'argent comptant, on lui connaissait pour plus de 50 000 livres de pierreries, et quand, par aventure, on lui offrait une écuelle d'or remplie de 2 louis, elle n'avait pas le courage de la refuser. Elle était au marquis de Sourdis, qui se ruinait pour elle et venait de lui faire présent d'une parure magnifique, lorsque le comte de Clermont l'aperçut et en tomba amoureux. Il n'eut pas besoin de recourir à l'enlèvement. Louis de Bourbon, comte de Clermont, fils de Louis III, prince de Condé, est assurément un des plus singuliers et des plus curieux personnages du XVIIIe siècle. Il n'était ni chair ni poisson, moitié prêtre, moitié soldat, prince du sang et tonsuré, il était abbé de 6 riches abbayes et, muni d'un bref du pape, il conduisait au feu 3 régiments. Il fut de plus académicien et l'un des premiers grands maîtres de la franc-maçonnerie en France. C'est lui qui, rééditant le mot de Charles Quint, prétendait qu'il était plus difficile de conduire des moines que de discipliner des soldats. Les ordres sacrés n'étaient pas son fait. Mais, à le voir au feu, on reconnaissait bien qu'il avait dans les veines du sang de Condé. À la bataille de Rocou, il fit merveille, ainsi que le prouvent ses vers qui coururent tout Paris. 2 Clermont ont été présents à cette affaire. L'abbé parut combattre en brave militaire et le militaire en abbé. L'abbé colonel avait 25 ans quand son cœur s'alluma aux éclairs des yeux noirs de la Camargo. Jeune, riche, beau, cousin du roi par-dessus le marché, il était l'homme de la mode. Généreux, il jetait sans compter, aux 80 de ses caprices, les revenus considérables de ses abbayes. Il était alors, en même temps, l'amant de Mademoiselle Cognam, la plus jolie des rôtisseuses, et de Madame la Duchesse de Bouillon. Tout à son nouvel amour, il céda de la rôtisseuse à son neveu, le prince de Conti, et la duchesse au marquis de Sourdis. Ce fut simplement un échange de ce côté. Avec le comte de Clermont, la Camargo arrive à la plus haute fortune. Il ne sait rien lui refuser, ou plutôt, il ne lui laisse pas le temps de rien souhaiter. L'argent de ses abbayes, du Bec, de Chalice, ne lui suffisent plus. Il s'endette. Quand il ne trouve plus à emprunter, il ruse pour en tirer de sa mère. Moncrif, qui était secrétaire des commandements du comte de Clermont, perdit sa place pour n'avoir pas voulu se prêter à ses intentions. On a dit plusieurs raisons de la disgrâce de M. de Moncrif. La vraie est que Mme la Duchesse, la mère, lui ayant demandé un état des dettes les plus pressées du comte de Clermont, il fit avec son maître. Cet état ne montant qu'à 50 000 livres, son Altesse lui dit qu'il fallait le recomposer et le porter jusqu'à 80, et que les 10 000 écus de surplus serviraient à faire un cadeau à Camargo. Mais Moncrif, abusant de la confiance de son maître, fit part du complot à Mme la Duchesse qui l'a sacrifié. Plus soucieux de son rang et des devoirs de son état, semble prendre plaisir à s'afficher avec sa maîtresse. Ce n'est plus un caprice, c'est une passion. Un soir, ayant fait trop d'efforts pour s'élever en dansant, Mademoiselle de Camargo tombe malade presque sérieusement. Voilà le comte au désespoir, il ne veut céder à personne le soin de veiller celle qu'il aime. Et ce grand amour est partagé. Le colonel part-il, la danseuse est inconsolable, elle s'habille tout de noir et jure qu'elle ne dansera plus jusqu'au retour de son abbé chéri. De retour, M. de Clermont s'avise de devenir jaloux du public et des applaudissements. C'était s'y prendre un peu tard. Il veut sa Camargo pour lui tout seul et il la retire de l'opéra. Grande douleur de tous les amateurs de la danse. Plus de Camargo, plus d'étoiles. Qui la remplacera? Plus tard, en 1537, le comte voulut joindre à sa manse la riche abbaye de Saint-Germain-des-Prés d'un revenu de 160 000 livres. Cela valait bien quelques sacrifices à l'opinion et surtout aux volontés de la cour. Il parut pris subitement d'un accès de dévotion et se sépara de sa maîtresse avec éclat. « Monsieur de Clermont est en retraite, disait-on, et on ne sait ce que Camargo est devenu. » Bientôt, le bruit se répandit qu'arrêtée par les ordres du roi, Mademoiselle de Camargo venait d'être enfermée à Sainte-Pélagie. C'était un faux bruit que le comte lui-même avait fait courir, il fut vite démenti. Le public n'en était pas sa dupe et on disait « Le roi vint d'accorder l'abbaye de Saint-Germain à Monsieur de Clermont et l'abbaye de Montmartre à Camargo. » Cependant, l'abbaye de Saint-Germain ne venait pas. L'abbé se lassa de la contrainte et, de plus belle, se remit à aimer sa maîtresse à la face de tout Paris. Elle voulait reparaître à l'opéra, il sut bien en empêcher. Camargo fait tous ses efforts pour remonter sur le théâtre et le comte de Clermont s'y oppose toujours avec la même opiniâtreté. Il en est si amoureux qu'il est jaloux même des plaisirs que le public partage avec lui en la voyant danser. C'est pousser la délicatesse bien loin. C'est cependant son seul motif. Elle s'est bien fait payer le sacrifice. Monsieur le comte vient de vendre au roi son duché de Châteauroux 2 600 000 livres et il lui a fait un présent de 100 000 francs. 100 000 francs pour tant d'amour, ce n'était guère et il ne faudrait pas pour si peu accuser Mademoiselle de Camargo de cupidité. Il ne tenait qu'à elle d'avoir la somme entière. Que n'aurait pas fait le comte pour lui plaire? Il ne pouvait se séparer d'elle et quand, par hasard, elle n'était pas là, il aimait à s'entourer de ses portraits. Ce n'est pas pour lui, cependant, que Lancret a dessiné la tête de Mademoiselle de Camargo, ce portrait charmant reproduit par la gravure et au-dessous duquel la fée avait écrit ce quatrain idiot « Fidèle aux lois de la cadence, je forme au gré de l'art les pas les plus hardis. Original dans ma danse, je peux le disputer au ballon, au blondie. » Elle vint enfin, cette abbaye tant désirée de Saint-Germain-des-Prés. Mais déjà, l'amour du comte touchait à son déclin. Mademoiselle de Camargo ne jouit pas longtemps des délices de ce château de Berny, ravissante maison des champs de l'abbaye, où Clermont bravait les colibés et les chansons. Clermont de rien ne se soucie, pourvu qu'il caresse sa mie. Et bon, je t'en réponds, si l'entretien des biens d'église, Sanchez en cela l'autorise. Et son, ah, voyez donc, un peu de tricherie dans la vie est toujours de saison. » À Berny, Mademoiselle de Camargo put voir poser la première pierre de la salle de spectacle que faisait construire le prince-abbé de Clermont. Sur ce théâtre, elle devait danser pour la plus grande joie des moines ravis. Hélas, une obscure figurante, Mademoiselle le Duc, lui enleva le cœur de son amant. En 1740, Mademoiselle de Camargo était rentrée à l'opéra et nous la retrouvons dans le prologue des fêtes grecques et romaines. Légère et forte en sa souplesse, la vive Camargo sautait. Mais elle avait une rivale terrible qui avait grandi pendant sa retraite de 4 années, Mademoiselle Salée. Désormais, il fallut partager les applaudissements du public et les louanges des poètes. Entre les deux danseuses, ce fut une guerre sans merci. Leur genre, cependant, était aussi différent que possible. Tandis que Camargo s'élevait à faire croire qu'elle allait toucher aux frises, plus haut, toujours plus haut, Salé s'avançait nonchalante et voluptueuse, sans risquer jamais une pirouette, sans battre jamais un entrechat. C'était la danse d'élévation et la danse d'expression en présence. Vainement, on essaya de les mettre d'accord. Voltaire lui-même y perdit ses rimes. Avec quelle adresse, cependant, il leur avait partagé les éloges dans ce galant madrigal. « Ah, Camargo, que vous êtes brillante! Mais que Salée, grand Dieu, est ravissante! Que vos pas sont légers et que les siens sont doux! Elle est inimitable et vous êtes nouvelle, les nymphes sautent comme vous et les grâces dansent comme elle. » N'en déplaise au patriarche de Ferney, Mademoiselle de Camargo dansait merveilleusement et ne sautait pas. Des 3 étoiles qui brillaient alors au ciel du ballet, c'était elle encore qui enlevait le plus d'applaudissements. De Camargo, de Salé, de Roland, maints connaisseurs exaltent le talent. Salé, dit l'un, l'emporte par la grâce. Roland, dit l'autre, excelle en enjouement. Et chacun voit avec étonnement les pas hardis, la noble et vive audace de Camargo. Entre les trois, la victoire balance, mais si j'étais le berger fabuleux, je ne sais quoi de grand, de merveilleux, me forcerait à couronner la danse de Camargo. À la fin du premier acte de Pyramétisbé se trouvait un duo charmant, d'un rythme sautillant, d'une mélodie facile. Mademoiselle de Camargo dansait sur l'ensemble de ce duo qui obtint le plus grand succès. Bientôt, il devint populaire, on voulut le chanter dans les salons, bien plus, on le dansa. Et le duo favori devint une contredanse qui prit le nom de la danseuse à la mode. C'est le premier air d'opéra qu'on ait mis en contredanse. On a dansé la Camargo pendant 100 ans. La Camargo est aussi la première contredanse à laquelle on ait adapté ces longs récits en couplets que les vaudevillistes appellent « couplets de facture ». Le premier de ces récits avait trait à Mademoiselle de Camargo, mais il est en vérité impossible d'en citer un seul vers. Après avoir tant dansé, Mademoiselle de Camargo voulut chanter. C'est dans aigler des talents lyriques qu'elle essaya de surmonter cette double difficulté. Elle avait une très jolie voix et obtint un grand succès, mais elle ne renouvela jamais l'épreuve. Enfin, en 1751, elle quitta définitivement le théâtre. Elle se retirait avec une pension de retraite de 1500 livres et une belle fortune. De ce moment, elle ne fit plus guère parler d'elle. Elle vivait comme une bonne bourgeoise, assidue à sa paroisse, toujours entourée d'une douzaine de chiens qu'elle affectionnait beaucoup. On ne se souvenait plus d'elle, on racontait son histoire comme la légende de la fée au petit pied, lorsque le 18 avril 1770, on apprit que Mademoiselle de Camargo venait de mourir. De ses 1001 amants, un ami lui était resté. Elle lui légua ses chiens. En retour, il lui fit faire un enterrement superbe. Tout le monde, dit Grimm, admirait, aux obsèques de Mademoiselle Camargo, les tentures blancs et bleus, symboles de virginité refusées aux personnes mariées, mais qu'on accorde toujours aux prêtresses de Terpsichore.